J'ai souvent dit que sur les posters, vous savez, sur les posters chrétiens, il y a plein de posters. Vous allez dans toutes les librairies chrétiennes, vous voyez des posters. Des posters avec des versets merveilleux. Plus merveilleux les uns que les autres. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout. Regardez Jérémie 33, par exemple. Verset 3. Vous connaissez ce verset. On le voit sur des posters, ce verset. Vous avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu sur des posters? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Moi, j'ai vu plusieurs fois ce poster avec ce verset. C'est bien? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Mais regardez où était Jérémie. Parce que le problème, c'est que les gens ne regardent pas le contexte. Et je vois M. Olé au fond, combien je vous suis reconnaissant, M. Olé, de nous avoir rappelé sans cesse l'importance de regarder les contextes pour comprendre une situation biblique. Vous voyez, le verset 3, c'est bien, il est sur les posters. Le verset 1er, il n'y est jamais. Mais on va le lire, le verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Alors, regardez où il est. Si vous avez votre Bible. Pendant qu'il était, pas enfermé, encore, le mot encore, ça fait réfléchir, encore enfermé dans la cour de la prison. Il est encore dans l'épreuve. Est-ce que ça peut arriver? Eh oui, mes frères et sœurs, il est encore enfermé. Et on pourrait prendre les textes. On pourrait prendre les textes. Combien de chrétiens? Pourtant, c'est Jérémie, c'est pas rien. C'est Jérémie, un homme de Dieu, hors pair. Et Dieu veut, ça pourrait ne pas être écrit. Le Saint-Esprit aurait pu ne pas mettre le verset premier. Il l'a voulu pour qu'on soit intelligent. Il est encore dans l'épreuve. Et le temps me manque, bien sûr, pour vous dire combien c'est tout à fait normal d'être encore enfermé dans une situation. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on va voir, comment il faut faire pour s'en sortir. Et ne pas y rester. Alors, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit pendant qu'on chantait ce matin, pendant qu'on chantait ce chœur. C'est un verset dans le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, il y a un verset qui est une vraie solution. C'est la solution à la façon dont un homme peut réobtenir la grâce, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Quelle que soit la situation. C'est un verset qui m'est venu ce matin à l'esprit, pendant que notre frère, M. Sinarinzi, nous introduisait dans les chants, justement, son nom est Jésus, son nom est Jésus, il vient pour consoler, il vient pour guérir. Mais il ne va pas le faire forcément. Il le fera si on vit le verset 5 du chapitre 8 du Cantique des Cantiques. Regardez ce qui se passe dans cette affaire. C'est un verset qui est merveilleux. Il n'est pas beau, il y a des versets qui sont beaux, il y a des versets qui sont agréables. Ça, c'est un verset d'une profondeur. Un peintre, d'ailleurs, les peintres devraient utiliser, peindre ce verset. Enfin, l'image de ce verset. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5. Regardez bien, mes frères et sœurs, regardez bien. La solution, elle est là, elle est dans une question. Vous savez que Dieu pose des questions. C'est sérieux, les questions. Quand le docteur vous dit, mais où c'est que vous avez mal? Si vous avez mal à la tête, vous n'allez pas dire, ben, c'est le genou, là, j'ai... Il y a des gens, ils ne disent pas la vérité. Vous le savez qu'il y a des gens qui ne disent pas la vérité, docteur? Ils ne leur disent pas la vérité. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ils ont peur. Mais quand Dieu pose une question, mes frères et sœurs, on devrait être sérieux. Et si je me permets de plus en plus de nous demander, de nous lever lorsque nous lisons la Bible, c'est pour que nous ayons compréhension vraiment de ce que Dieu a à nous dire. Qui est celle qui monte du désert? Alors pourquoi elle sort du désert? Qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible? Appuyée sur son bien-aimé. Vous avez vu ce merveilleux verset? Elle sort du désert. Je ne sais pas depuis combien de temps elle y était, je ne sais pas, on ne sait pas. Je ne sais pas depuis combien de temps. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Elle est appuyée sur le bien-aimé. Vous savez qui c'est le bien-aimé pour nous? C'est Jésus. Et il y a des gens qui restent dans le désert. Ils ne sont pas appuyés sur le Seigneur. Ils ne laissent pas le Seigneur s'approcher d'eux. Alors le verset qui m'est surtout venu à l'esprit ce matin, moi ça c'est une introduction, avant qu'on prenne le pain et le vin, avant qu'on puisse se dire, mais moi aussi je vais m'appuyer sur le bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'on s'appuie sur Dieu. Ils sont à l'église ce soir, ils seront en train de regarder des cochonneries à la télé. Et vous savez que c'est vrai. Alors ça c'est sûr que ça c'est le moyen de s'introduire dans le désert. Ça c'est sûr, croyez-moi. Mais il y a des gens qui peuvent expérimenter la grâce de Dieu. D'ailleurs, je vous conseille, je vous le conseille, écoutez-moi bien. Parce que vous savez, il y a la parole de Dieu à l'église, mais il y a ce qu'on apprend à la maison. Et ce matin, je lisais des textes sur la grâce, justement. Je lisais des textes sur la grâce. Vous avez entendu le deuxième don spirituel qui était que sur la grâce? Mes frères et sœurs, prenez une concordance et étudiez tous les textes où les gens ont obtenu grâce. Comment ai-je trouvé grâce aux yeux de Dieu? Ruth, cette étrangère, cette pauvre veuve, jeune veuve, cette pauvre femme, elle est étrangère et en quelques jours, elle va se retrouver dans un champ et elle va dire, mais comment ai-je trouvé grâce aux yeux de Dieu? Elle est à l'étranger, c'est une noire. Je dis ça parce qu'il y a des Africains qui sont frustrés, ou des Français à l'étranger. Dès qu'on est à l'étranger, il y a des gens, ils sont en braque. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de me faire traiter de sale Français à l'étranger, je le sais. Et je bénis Dieu d'avoir vécu ça. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas trop mettre en question parce que quelqu'un nous a insultés. Mais mes frères et sœurs, il y a un Dieu dans les cieux qui fait grâce. Et prenez la concordance. Il y a des centaines de textes. Et si vous ne savez pas, il y a des gens, je ne sais pas quoi lire, je ne vois pas, pourquoi prier? Eh bien écoutez, il y a un problème. Hein. C'est que là, vraiment, il y a un aveuglement. Parce qu'il y a de quoi lire dans la Bible. Comment j'ai trouvé grâce? Mais regardez le nombre d'hommes et de femmes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous n'avez pas envie de trouver grâce aux yeux du Seigneur? Sérieusement, il n'y a pas quelqu'un ce matin qui dit, moi je veux vivre dans la grâce de Dieu. Je ne veux pas le chanter en boucle, je veux le vivre. Je veux vivre dans la grâce de Dieu. Je veux expérimenter cette grâce. Elle est disponible, cette grâce. On le chante là aussi souvent de la croix, la grâce coule. Alors, prenons un cas. Alors là, Dieu a été bon, parce qu'en plus, Dieu a été bon. Parce qu'il nous a laissé des dizaines, des centaines de textes pour voir comment des hommes pourtant qui étaient bien, qui aimaient Dieu, se sont retrouvés dans le désert et ont été restaurés. C'est ça qui est important. Comment Dieu s'y prend-il pour restaurer quelqu'un? Alors dans 1 Roi, au chapitre 19, il y a un homme qui a pourtant, il a obéi, et puis il se trouve confronté à une épreuve. Ça peut arriver, ça, on obéit, et paf, une épreuve, une parole. Une parole d'une femme en plus. Une parole d'une femme. Vous savez, Pierre, il n'a pas chuté quand les soldats sont venus arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani. Au contraire, il a coupé l'oreille à un sacrificateur. Vous vous rappelez? Il n'a pas eu peur devant les soldats. Il a eu peur devant qui? Une femme. Hein? Vous savez, on ne sait pas. Vous avez des gens qui s'imaginent, non, moi je ne chuterai pas. Ce n'est pas une femme, moi, qui me fera trembler. Attention, attention. En tous les cas, Élie, qui ne tremblait devant personne, il a entendu. Bon, c'était peut-être la, comme on dit, la goutte qui faisait déborder le vase. Ça arrive, ça. Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Un roi 19. Et vous savez, c'est pas parce que Dieu agit que les gens vont se convertir. C'est ce qu'on va voir aussi si on a le temps. Un roi chapitre 19. Il est frustré, Élie. Il est frustré parce que le feu du ciel est descendu, mais ça n'a pas changé beaucoup de gens. Ça n'a pas changé beaucoup de gens. Et surtout pas Jézabel. Lui pensait que ça les changerait. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne te fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Vous voyez, c'est juste une parole. Un petit courrier. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et là il fait le vide, hein, et il y laissa son serviteur. Ça me rappelle, avant-hier, il y a une chrétienne qui m'appelait, elle me dit, moi je ne vais plus à l'église, je ne veux plus aller à l'église, les gens ils sont découragés. C'était pas d'ici, hein, heureusement. D'ailleurs, ça me blesserait si vraiment les gens, tout le monde était découragé. Je ne vais plus dans cette église, tout le monde me décourage. Je dis, mais allez-y, faites du bien. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction d'aller dans une église et de faire du bien aux frères et sœurs? Bien sûr. Et au bout d'un quart d'heure, au bout de demi-heure, elle a compris l'importance de recevoir et d'aller faire du bien à des gens qui sont tous découragés. Et ça peut arriver, le découragement, je peux vous dire, j'ai étudié la Bible, peut-être pas assez encore, c'est sûr, le découragement, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Il y a des épreuves, vous ne pouvez jamais savoir. Il y a plein d'épreuves. Est-ce que Dieu peut permettre plein d'épreuves? Oui, plein de tempêtes. Mais le découragement, je peux vous dire, c'est le diable qui met sa pression. Élie se retrouve découragé, isolé. Vous voyez, même là, quand hop, il laisse son serviteur. C'est bien d'avoir un frère avec qui parler, oui ou non? Tout à l'heure, on va avoir un jeûne et prière. Et je disais, avant que le culte ne commence, je disais quelque chose d'important. Pour beaucoup de chrétiens, ils sont à moitié convertis. C'est ça le problème. Donc, ils ne comprennent de l'Église que la communion fraternelle. Pour eux, l'Église, c'est la communion fraternelle. Bon, c'est bien la communion fraternelle. Pour beaucoup de chrétiens, l'Église, c'est une famille. C'est qu'une famille. On est des frères, on est des sœurs, Dieu est notre Père, point. Mais l'Église, c'est une famille, mais c'est aussi une armée de soldats qui combattent le bon combat. Et si vous n'avez pas compris qu'il y a les deux dimensions, vous êtes passé à côté de quelque chose. Béni soit Dieu pour la communion fraternelle. Mais l'Église, c'est une armée d'hommes et de femmes qui combattent. Je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas s'il faut le dire parce que ça va être enregistré, mais je le dirai dans les annonces, dans un certain pays, 4 églises, vous allez voir, 4 églises ont été ouvertes. Si vous saviez comment ces chrétiens y combattent. On en reparlera dans les annonces, je ne préfère pas que ce soit enregistré ça. Et Dieu sait où est Élie. Dieu ne va pas l'abandonner. Est-ce que Dieu abandonne quelqu'un quand il est découragé? Nous, des fois, on dit, ouais, celui-là, il a quitté Dieu, il a quitté l'Église. Dieu l'abandonne. Non, Dieu ne nous abandonne pas quand on est découragé. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui auraient dû rester à Jérusalem et qui fuyaient, qui partaient, ils n'avaient rien compris, ils étaient désespérés. Qui c'est qui va les rejoindre? Jésus, il n'a pas dit, ils n'ont qu'à revenir. Ils n'ont qu'à revenir, ils comprendront quand ils auront... Non, il va les rejoindre. Le jour de la résurrection, Jésus s'intéresse à 2 de ses enfants, il va les rejoindre. Et comment le Seigneur va leur parler pour les ramener? Et ce matin, moi je voudrais que vous soyez conscients que la grâce de Dieu, elle existe. Mais elle existe. Personne ne peut s'imaginer combien la grâce de Dieu, elle est infinie. Et vous pouvez faire des expériences nouvelles avec Dieu dans tous les domaines de votre vie. Et ce qui est écrit là, c'est pour nous montrer que lorsqu'un homme s'appuie sur son bien-aimé, il sortira du désert. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Jérémie, il a été encore enfermé. Et alors, si ça doit contribuer à me guérir, à m'appuyer sur Dieu, c'est beau d'être appuyé sur le Seigneur. Je ne sais pas si boiter, je ne sais rien, c'est une image, c'est un texte, mais quand même il est là. Elle sort du désert. Mais je voudrais, mes frères et sœurs, que vous arrêtiez de tourner en rond. Il y a des gens, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, ils sont dans le désert. Vous les voyez, ils sont tout le temps en vrac, découragés. Ils entendent des prophéties qui nous rappellent de ne pas être troublés, de ne pas nous inquiéter, que le monde va se dégrader. Est-ce que ça va s'arranger, le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait se lever et dire, mais ça va s'arranger, j'espère que ça va s'arranger. Avec les régionales, il va y avoir des régions qui vont passer à droite. Ça va s'arranger, monsieur Gou? Vous riez, mais vous savez très bien que le monde va aller en dépérissant. Mais les chrétiens, ils seront gardés. Si tu gardes ma parole, je te garderai. C'est pas moi qui l'ai dit. Il l'a promis. Mais laissons-le s'approcher de nous. Laissons-le nous toucher. Vous avez vu ce qu'il a fait? Bon, il en a dans le désert. Ça, c'est imparable. Hein. Quand on commence à rétrograder, on s'isole tout seul. Il est là dans le désert, après une journée de marche, dans le désert quand même. Il s'assit sous un genêt. Bon, il a beaucoup avancé, je trouve. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, je reviendrai. Non, il demande. Non, heureusement que Dieu n'écoute pas toutes nos prières. Hein. Heureusement que Dieu est assez grand et assez bon pour ne pas exaucer toutes nos prières. Moi, si Dieu m'avait repris chaque fois que j'ai demandé la mort, je serais mort au moins 50 fois. Ah ouais, j'aurais fait plusieurs voyages. Hein. Je vous le dis, si j'étais mort chaque fois que je demandais. Bon, s'il ne m'a pas repris, c'est qu'il y avait une raison. Il y en a plusieurs ici qui ont demandé la mort plusieurs fois. Allez, levez la main doucement. Il n'y en a pas qui ont demandé? Ben, c'est normal. Même Élie. Et puis Dieu ne va pas aller le voir. Il dit, ah ben, qu'est-ce que tu fais, Élie? Tiens donc, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas? Ah bon? Mais dis donc, je ne croyais pas que tu étais comme ça. Vous savez, c'est facile. Hein, c'est facile d'accabler les gens. Ah bon? Toi, Élie, ben tu sais, tu m'as beaucoup déçu. Je suis vraiment déçu. Vraiment déçu. En plus, c'est pathétique parce qu'il va demander la mort et il ne mourra jamais cet homme. Parce que Dieu va l'enlever. Non, mais est-ce que Dieu aurait pu le dire ce soir, écoute, Élie, ça tombe vraiment mal cette affaire. Parce que tu demandes la mort, mais voilà, tu seras même pas, tu mourras même pas. Vous savez, c'est un peu ce qui nous attend peut-être. C'est qu'on risque de ne pas passer par la mort. Parce qu'il y a de très, 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 très fortes chances que Jésus revienne très, très, très bientôt nous chercher. Alors, demandons pas la mort. Bon, ça peut arriver, parce que des fois, vous avez vu les angoisses, la détresse, on peut dire des choses. C'est Job qui dit, je suis dégoûté de la vie, j'en peux plus, c'est la douleur qui m'a fait parler comme ça. Anne dans le temple, mais c'est l'excès de ma douleur qui me fait parler comme ça. Alors, ne jugeons pas trop les gens si dans la douleur, ils disent des bêtises. Ça peut arriver. Ce qui est important, ce n'est pas les bêtises que l'on dit, c'est la suite. Comment Dieu s'y prend. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il se couche, il est fatigué, bien sûr, et il s'endort sous un genêt. Qu'est-ce que Dieu fait? Un ange le toucha. Alléluia. Vous pouvez dire Alléluia. Ou Amen, ou merci. Ou rendre grâce, comme on l'a entendu tout à l'heure. Vous pouvez rendre grâce. Un ange l'a touché. C'est ça, mes frères et sœurs, que nous avons besoin. Que le Seigneur nous touche. Il le touche. Il ne met pas un coup de poing pour le réveiller. Il le réveille gentiment. Il le touche. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il te dit? Mange. Eh ouais, il ne faut pas oublier que nous habitons dans des corps. Quand je vois que le repos a été institué par Dieu avant la chute, ça devrait nous faire réfléchir ça. Quand l'homme était parfait, pas de péché, Dieu avait institué le repos. Même Dieu lui-même, qui ne se fatigue, qui ne dort, s'est reposé. Donc, nous avons besoin de repos. Et il faut savoir s'occuper de son corps. Alors, il y a des gens, je ne devrais pas le dire ça, ils sont tellement paresseux qu'eux, ils s'en occupent. Alors, si vous êtes paresseux, n'écoutez pas. Vous pouvez boucher les oreilles pendant 2 minutes. Ah ouais, c'est grave, parce qu'il y a beaucoup de paresseux. Et il y a beaucoup de gens, de chrétiens qui vont rester sur la terre à cause de la paresse. Alors là, ce n'est pas pour vous. Si vous êtes paresseux et que vous ne faites rien, et que vous ne faites rien dans votre maison, et que vous ne faites rien pour votre famille, rien pour l'église, ce n'est pas pour vous ce que je vais dire. Vous demandez pardon et remettez-vous au travail. Mais il y a des gens qui sont épuisés. Il y a des gens qui sont fatigués. Et une des premières choses que Dieu veut faire, c'est nous restaurer physiquement. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas s'épuiser. Il y a des gens qui restent sur la télé ou sur l'ordi jusqu'à 2 heures du matin. Vous croyez que c'est intelligent? Franchement, est-ce que vous croyez que c'est sage? On s'épuise. Et à force de s'épuiser, ça rejaillit. Ben, ça rejaillit sur nos émotions. Il ne faut pas rêver, c'est tout embrigadé, le corps, l'âme et l'esprit. Et il y a des gens, ils sont épuisés, déprimés, découragés, parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur santé. Je pense savoir de quoi je parle un peu. Et il faut apprendre à savoir se reposer. Élie va se reposer, il dit, mange, repose-toi. Et d'ailleurs, quelle grâce. Pas de reproche. Il regarda. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Regardez comment Dieu est bon. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Allez, rentre vite. Hein. Pas le moment de désobéir, il y a du boulot. Non. Il y avait à son chevet un gâteau cuit, tenez-vous bien, sur des pierres chauffées. Ce n'était pas le truc tout froid. Allez, c'est déjà bien. Dans le désert, écoutez, on ne peut pas faire autrement. Mais Dieu, il peut faire n'importe où. Il peut faire ce qu'il veut, le Seigneur. Il peut réchauffer une pierre et mettre un gâteau chaud dessus. Ça, c'est sa délicatesse. Et si on prenait le temps, on verrait combien Dieu a de la prévenance. Mais le problème, c'est qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas. Là, Dieu, je suis certain, mais convaincu que Dieu parle à plusieurs. Mais déjà, vous n'écoutez pas. Vous pensez, il faudrait que Dieu fasse ceci, il faudrait que Dieu fasse ça. Quand ma mère m'aura demandé pardon, eh bien, je serai guéri. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est guéri quand on retrouve la communion avec Dieu. Là, d'ailleurs, la preuve, vous allez le comprendre. Dieu use de délicatesse, hein, des pierres chauffées, une cruche d'eau, etc. Merci, mon fils. Il est bien, ce gosse. Il est bien, ce petit. Ah, c'est le mien. Une cruche d'eau, il mangea, puis se recoucha. Moi, si vous saviez comment je réalise la bonté de Dieu, peut-être que vous, pour vous restaurer, vous détendez bêtement. Oui, bêtement. Je le sais parce que c'est des jeunes qui m'ont dit « Monsieur Gon est capable de rester sur la PlayStation jusqu'à 3 heures du matin. » C'est des jeunes chrétiens d'ici qui me l'ont dit. On n'est pas dans ce qu'on est en train de voir. Vous croyez que ça va vous détendre? Ça va vous épuiser. Surtout quand certains jeux de PlayStation sont remplis de violence. Moi, je m'interroge, je pense que là, si vous en êtes là, je pense qu'au niveau de la conversion, il y a un truc à revoir. Hein. Vraiment. Quand Dieu restaure quelqu'un, quand on s'appuie sur le bien-aimé, c'est pas quand on écoute une prédication à l'église. Quand on s'appuie sur le bien-aimé, c'est qu'on on marche dans ce processus. Oui, Seigneur, je suis dans le désert, je me suis trompé, j'ai fait le vide, je suis en train même d'abandonner l'église, je ne me rappelle pas compte à quel point je me trompe par des faux raisonnements, mais moi je veux reconnaître ta grâce de Dieu. Si Ruth et Noé, on pourrait les prendre, c'est infini. On en a pour 3 ou 4 ans si on le fait correctement. Les gens qui ont retrouvé grâce, tout simplement parce qu'ils se sont vraiment appuyés, c'est ça. Seigneur, je veux que tu me touches. Tu as du pain à me donner. Vous croyez du gâteau, c'était pas que du pain. C'était un gâteau. Est-ce que Dieu aurait pu donner un morceau de pain froid que de dur? Oui. Ben oui. Quand Dieu nous nourrit, il fait les choses comme il faut. Mais depuis quand la parole de Dieu ne vous a pas béni? Depuis quand un texte ne vous a peut-être pas fait même pleurer de reconnaissance? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer de reconnaissance en lisant la Bible? Ça vous est arrivé? Moi, l'autre jour, je vais chercher un café dans ma cuisine. Ma femme, elle me dit, mais tu pleures? Ah, je dis, ouais. Je pleure de joie. Parce que le Seigneur, il m'a parlé. Vous le croyez? Les gâteaux cuits, ça existe. Il y en a. De l'eau fraîche, il y en a, mes frères et sœurs. Et on passe souvent à côté, on prie, on est capable. On est aveugle. Seigneur, qu'on ait une bonne prédication ce matin. Une bonne prédication? Mais c'est quoi une bonne prédication? C'est entendre la pensée de Dieu pour ma vie. Et moi, je vous dis, certains jeunes, vous feriez mieux de balancer vos ordinateurs, de balancer vos téléphones, parce que je vous dis qu'il y a des gens qui vont aller à l'enfer à cause de cette affaire. Parce que les gens, ils n'ont pas la haine du mal. Alors avec ça, je vais vous dire, le gars qui ne sait pas résister au mal, la Bible dit « Ayez le mal en horreur. Vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. » On pourrait prendre tous les textes, vous verriez combien Dieu nous demande d'haïr le mal. Et quand moi je vois la quantité de gens qui m'appellent, « Monsieur Gaud, je suis tombé dans la pornographie. » Moi je me dis, mais comment on peut redevenir charnel comme ça? Parce que les gens qui vivent dans l'iniquité, laissez-moi vous dire que quand Jésus va revenir, ils ne seront pas prêts. Si vous vivez dans l'iniquité et que vous imaginez que parce que « Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, je prends le pain, le vin, je m'attends, ne vous amusez pas à ce trafic-là. » Quand on demande pardon et on arrête. Et on arrête parce que la repentance donne la victoire. Vous le croyez ça que la repentance donne la victoire? Ouais, ou alors Dieu est un menteur. Ou c'est vous, c'est Dieu. Je pense que ce n'est pas Dieu. Dieu y restaure. Et si, franchement, mais prenez la concordance et imprimez, parce que vous avez une imprimante, imprimez ou faites-vous imprimer tous les textes sur la grâce et mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, moi je veux être touché. Je veux qu'un ange, je ne sais pas qui, mais touche-moi, Seigneur. Touche-moi tout à nouveau. Parce que moi je veux terminer la course vraiment dans la victoire. Est-ce qu'on pourra terminer dans la victoire? Ben oui, ceux qui veulent être des vainqueurs, ils seront des vainqueurs. Même plus, puisque Paul dit, je suis plus que vainqueur. Voilà, si vous voulez être plus que vainqueur, vous serez plus que vainqueur. Ne dites pas, ah ben ouais, mais moi je suis comme si, moi j'ai une enfance difficile, ah si vous saviez ce que j'ai vécu avec mes parents, ouais et alors? Quand vous allez passer devant Dieu, vous allez lui dire, j'étais rétrograde parce que mon père était un alcoolique, j'étais rétrograde parce que mon père m'a tapé trop fort sur le derrière quand j'étais petit. C'est ça que vous allez entendre? Dieu guérit tout. Il guérit toutes les maladies. Il est mort sur la croix, le Seigneur Jésus, Dieu. C'est Dieu. Les gens, ils captent pas toujours. Le Seigneur Jésus, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui s'est incarné. Dieu, notre Seigneur, s'est fait Christ pour mourir sur la croix, pour nous donner la victoire. Et pour que tous en sortent du désert, appuyés sur le bien-aimé. Mais commençons par le début. Si c'est le corps, eh bien je m'occupe de mon corps. Je m'occupe de ma santé. Parce que je vous le dis, ça rejaillit sur les émotions. Et si ce texte, il est là dans la Bible, si Élie, parce qu'Élie, quand même, lui aussi, c'est une grande pointure, il a été fatigué parce que tout ce qu'il a fait, ça l'a fatigué. Et même servir Dieu, ça peut nous fatiguer, oui ou non? Bien sûr. Et bien sûr, la preuve, elle est là. Donc, il va être fortifié physiquement. Mais les jeunes, écoutez bien, s'il vous plaît. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le nombre... Moi, je vous donne un témoignage. Quand je suis arrivé à Toulouse, il y a quelqu'un d'une autre église qui est venu me trouver. Cette personne a dirigé 33 jeunes. Écoutez bien. Et j'ai dit, mais les jeunes, attention. Oh, monsieur Gau, vous êtes trop légaliste. En plus, c'est pas vrai. Il dit, écoutez, vous verrez si vous m'écoutez pas. Et juste après l'AVC, je m'appelle, la responsable qui était en train de divorcer est venue me dire, monsieur Gau, moi, en plus, j'étais en braque à l'époque, j'étais pas vieille. Elle m'a dit, monsieur Gau, vous aviez raison. Sur les 33 jeunes, 31 ont rétrogradé. Vous savez, ça vous fait pas rire, hein? Ça fait pas rire. Dans une église à Toulouse. Parce que les jeunes, veillez-y. Mais quand même, il faut être intelligent. Il faut être... Mais sérieusement, je ne sais pas comment vous le dire. Mais vous vous rendez compte, il y a des gens, ils passent 5, 6, 7 heures sur leur Facebook. Mais vous rendez compte ce que vous êtes en train d'inhaler? Mais moi, je me fais du souci parce que je le sais. Parce que c'est prophétisé que la moitié des croyants ne seront pas prêts quand Jésus va revenir. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Et ça devrait nous faire flipper à tous. On devrait tous avoir de la crainte et dire, mais Seigneur, moi, je ne veux pas faire partie de ces vierges folles. Je veux sortir du désert. Angoisse, détresse, douleur, encore enfermé dans la prison. Mais on s'en fiche. Seigneur, tu es un Dieu qui ouvre les portes. Est-ce que Dieu peut ouvrir les portes de fer? Est-ce que c'est écrit quelque part, je briserai les verrous de fer? Mais mes frères et sœurs, quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Quand il fallait que Jésus naisse à Bethléem, eh bien, il a à 2 ou 3 000 km, plus, à 5 000 ou 6 000 km, il a inspiré César pour qu'il fasse un recensement en Galilée. Oui ou non? Et Joseph et Marie sont partis de Nazareth. Ils ont été à Bethléem. Et voilà. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Mais il faut le laisser nous parler. Il faut obéir. Joseph et Marie, ils ont obéi, ils n'ont pas joué les rebelles. Ah, mais elle est enceinte, ben, on n'ira pas, tant pis. Non, on obéit. On obéit. Et ça commence souvent par le physique, mais parce que c'est pour ça que beaucoup de gens sont fatigués, chargés. Ils sont toujours fatigués. Et ils chantent avec frustration, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous leur demandez, mais ça va bien mon frère, t'es docteur? Ben ouais, moi ça me fait pas rire parce que ça arrive des fois. On s'intéresse aux gens, alors quand même on veut les aider, même si on peut pas toujours, mais quand même. Vous allez bien, hein? T'es devenu docteur? Non, moi ça me fait pas rire, je sais que c'est la façon de vous le dire, mais mes frères et sœurs, avoir un Dieu comme le nôtre et rester dans le désert, c'est quand même inquiétant. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Et quand il dit « mange, repose-toi », eh bien on devrait commencer à le faire. Et plutôt que de vous coucher ce soir à 1h du matin, pourquoi vous ne vous coucheriez pas ce soir à 9h? Et pour que demain à 5h30, 6h, vous passiez une heure devant le Seigneur, vous verrez si le lundi 2 novembre, il ne sera pas mieux que le dernier lundi. Mais vous le savez que c'est vrai. Mange, bois. Alors qu'est-ce qui se passe après? Verset 7. L'ange le toucha une seconde fois. Ouais, mais il faut en faire plusieurs expériences parfois. Lève-toi, mange. Oui, de nouveau. Merci Seigneur. Car le chemin est trop long pour toi. Oui, vous ne savez pas le chemin. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste à vivre. Même si Jésus revient très bientôt, dans ce dont je suis certain, il y a un chemin. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours. 40 nuits. Vous voyez comme quoi Dieu peut donner des forces. Hein? Physique. Parce qu'au niveau spirituel, le problème n'était pas réglé. Dieu peut nous bénir physiquement, c'est pas pour ça qu'on va être béni spirituellement. C'est pas parce qu'on fait une expérience avec Dieu qu'on retrouve la communion avec Dieu. Vous me suivez? Et c'est ce qui se passe des fois. On voit des gens, oh monsieur Gau, j'ai fait une expérience. Mais vous pouvez pas vous imaginer. Vous le croirez pas, monsieur Gau. Bon, je risque quand même de le croire. Monsieur Gau, si vous saviez, j'ai fait une expérience. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Si vous saviez comment Dieu m'a béni. Les gens, des fois, une semaine après, ils sont rétrogrades. Pourquoi? Eh bien, parce que ce n'est pas une expérience qui nous fait retrouver la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est un peu plus sérieux que deux, trois expériences merveilleuses et qui peuvent même nous donner des forces pour marcher jour et nuit pendant un certain temps. Donc, il va au Horeb, un endroit merveilleux où Dieu avait parlé à Moïse. Enfin, on ne va pas expliquer ça. Il entra dans la caverne, il passa la nuit, et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pas de reproche. Que fais-tu ici, Élie? Une question. Que fais-tu ici? Tiens, ça pourrait être le titre de la prédication. Mais que fais-tu ici? Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de condamnation. Juste une question intelligente. Est-ce que Dieu peut nous poser la question ce matin? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici, 9 rue Saint-Guilhem? Est-ce que c'est une question que Dieu pourrait vous poser? Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais ce matin? Vous voyez, sans reproche, pas de condamnation. Une question. Dieu peut parler en quatre ces mots. Qu'est-ce que tu fais ici? Il pourrait me poser la question. Et toi, Gérard, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, quelqu'un d'intelligent, il comprend bien qu'il n'y a pas du tout de reproche. Il y a une question. Parce que c'est vrai que Élie, qu'est-ce qu'il faisait là au Horeb? C'était pas son style de désobéir. Parce que là, quand même, il a fui le désert, machin, etc. Il n'est peut-être pas à sa place. Il a fui, on l'a vu. Donc Dieu peut s'autoriser à dire, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas dans ton habitude, mon cher fils, de désobéir, de te retrouver à un endroit où je t'ai pas demandé d'y aller. Parce que chaque fois que, si vous regardez la vie d'Élie, chaque fois qu'il fait quelque chose, Dieu lui a dit, va au torrent de Kérit. Il obéit tout le temps. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas bien, vous voyez. Alors il a fait des expériences, mais il y a de l'amertume dans son cœur. Vous voyez au verset 10, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi, seul. En plus, c'est pas vrai. Il sait pas qu'il y en a plein d'autres qui sont restés fidèles. Il y en a 7000, je crois, au verset où c'est que il y en a 7000 qui n'ont pas tué. Hein, un peu plus loin. Dieu lui dit, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Bon, mais c'est peut-être pas. C'est vrai que c'était pas des Élie, ça c'est sûr. Ils n'avaient pas la trempe d'Élie. Vous me suivez? Parce que bon, on n'a pas tous la même carrure spirituellement. Mais c'était quand même des enfants du Seigneur. Alléluia. Et dans l'église, peut-être celui qui est à côté de vous, il n'a pas la trempe d'Élie. Ben ouais, c'est vrai. Mais quand même, si vous marchez avec Jésus-Christ, si vous êtes sous le sang du Seigneur, si vous marchez dans ce chemin, vous êtes des enfants du Seigneur. C'est sûr que ce n'était pas des Élie. Mais c'était quand même les enfants de Dieu. Et Dieu tient à le lui dire. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai fait ci, voilà. Et Dieu lui parle. Il faut regarder les mots que Dieu utilise. Si vous ne voulez pas trop regarder les propos d'Élie, ce n'est pas grave. Mais regardez ce que Dieu fait. Parce que s'il l'a fait pour lui, il veut le faire pour vous. L'Éternel dit, sors, tiens. Est-ce que ce n'est pas le mot que j'ai besoin d'entendre ce matin? Dis un mot, mais il faut que je sorte à nouveau de ma déprime. Il faut que je me remette à l'œuvre. Tiens, mais je vais sortir et revenir à la maison de prière. Est-ce que Dieu aime que ses enfants se rassemblent pour prier? Ben oui, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et si vous me dites, mais j'ai pas le temps, eh bien, ne sortez pas. Mais ne dites pas après au Seigneur, Seigneur, restaure-moi. Ou ne chantez pas les cantiques. Bon, ça ne me gêne pas. Mais ne chantez pas des cantiques sur la restauration si vous n'obéissez pas. C'est ridicule. Quand Dieu nous parle de restauration, au moins ayons le respect de faire ce qu'il demande. Chaque fois que Dieu fait un miracle, il y a la participation de l'homme. On parlait l'autre jour, jeudi soir, quand Jésus a changé l'eau en vin, est-ce qu'il aurait pu remplir, lui, les vases, les 6 vases de pierre, là? Est-ce qu'il aurait pu les remplir? Non, il a dit, remplissez-les. Et là aussi, il aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'il se mêle? Mais de quoi il se mêle? Vous allez me dire, mais t'es pour repos. Mais quand le Seigneur vous dit quelque chose, mes frères et sœurs, soyez intelligents. Si le Seigneur ce matin vous dit au travers de mon ministère, mais sors de ta caverne, sors de ta misère, reva dans la maison du Seigneur, reva, trouve la maison de prière, on n'est pas capable de trouver, je l'ai déjà dit 50 fois, mais il faut le redire, on n'est pas capable, si on le veut, de prendre la journée pour aller marcher au bord de la mer. Est-ce qu'il y a du mal à aller marcher au bord de la mer, passer une journée, est-ce qu'il y a du mal? Est-ce qu'on est capable de prendre 2 heures, de faire 1 heure et demie de route pour aller à Narbonne et marcher main dans la main avec sa femme? Est-ce que c'est bien de le faire? Ben oui. Mais soyons sérieux, on est capable de faire 3 heures de route aller-retour pour marcher au bord de la mer et pour aller manger une grillade d'un petit restaurant? On n'est pas capable de venir dans la maison du Seigneur, de sortir et de dire « Moi, je veux combattre pour mes enfants. Je veux que tous mes enfants soient sauvés. » Vous croyez que ça, c'est une prière où vous croyez qu'il faut insister ou vous croyez que Dieu veut sauver vos enfants? Par contre, arrêtez de demander à Dieu de jouer au loto, de gagner au loto, ça ne marchera jamais. Ne riez pas, parce que ça vous met en porte-à-faux avec Dieu, ça. C'est l'amour de l'argent. Cette prière, Dieu l'exaucera jamais. Vous entendez? Il vaut mieux donner 2 euros à la mission et nourrir une famille en Afrique, parce que là, vous êtes sûr que ça vous sera rendu à la résurrection des justes. Et si tous les chrétiens qui jouent au loto, les 2 euros que ça coûte, ou je ne sais rien, ou 3, s'ils les donnaient à l'œuvre de Dieu, on en nourrirait des gens qui ont faim en Afrique. Eh ouais, c'est la vérité. Sors. Et le Seigneur, il sort. Comment il fait? Vous avez vu? Il sort, il s'enveloppe de son manteau. Elle est belle, cette image. Il sort, il se tient devant la montagne de l'Éternel. Oui, au verset 13, on le voit. Quand Élie l'entendit, il ne s'enveloppe pas. Le visage de son manteau, il sortit et se mit à l'entrée de la caverne. Bon, le Seigneur, il va taper fort, là. Il va taper fort. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait passer un vent fort et violent, bon, qui déchirait les montagnes? Ça devait souffler, là. Et qui brisait les rochers. Est-ce que vous vous imaginez la vitesse du vent? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il brise les montagnes, les rochers, l'Éternel. En plus, il n'est pas là. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? L'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. Après, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Eh bien, Dieu est en train de lui enseigner quelque chose, de lui réenseigner. Parce que des fois, on le sait, mais on a besoin de le réentendre. Il a besoin de réentendre que celle qui détient la puissance, ce n'est pas Jézabel. Le seul qui détient la toute puissance, c'est Dieu, ce n'est pas Jézabel. Vous le croyez, ça, que c'est Dieu qui détient la toute puissance? Et si vraiment vous obéissez, vous pouvez dire, il n'est pas que le Tout-Puissant. Ou il n'est pas que mon Père. Il est aussi le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu lui dit, mais regarde, c'est moi qui contrôle tout. Et c'est vrai que nous, alors il n'a pas avancé, il n'avance pas. Il n'avance pas. D'ailleurs, il lui repose la question à la fin du verset 13. Mais que fais-tu ici, Élie? Oui, ça prouve que même si on s'appelle Élie, on a du mal à comprendre. Et ne vous offusquez pas si on vous répète 10 fois la même question. Parce que c'est peut-être parce que c'est à la 11e fois que vous allez entendre. Vous acceptez qu'un pasteur vous fasse 10 fois la même prédication, en fait? Vous accepteriez? Comment? Oui? Ben oui. Remerciez Dieu. Que déjà, qu'un pasteur ait le courage de redire 5 fois la même chose. Parce que si un pasteur donnait 5 fois la même prédication, dans certaines églises, je ne pense pas ici, hein, mais je pense que dans certaines églises, il y a des anciens qui diraient te dire, écoute, tu n'as que ça à dire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, je suis sûr. C'est pas vrai, monsieur Dieu. Je suis sûr que dans des églises, un pasteur ferait la même prédication 5 fois de suite, il y a des anciens qui iraient lui dire, non mais écoute, tu tiens devant Dieu ou quoi? Alors que Dieu peut redire 10 fois la même chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'avance pas. J'ai déployé mon zèle. Il recommence. Vous voyez, quand on répète toujours la même chose, c'est que ça n'a pas beaucoup bougé. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, les enfants d'Israël, etc. Et moi seul. Il est là. Il n'avance pas. Lui, il était sûr que le feu du ciel, ça allait réveiller tout le monde. Ah, si les gens voient la puissance de Dieu. C'est vrai que la puissance de Dieu, ça peut amener à des gens à voir que Dieu existe. Mais ce n'est pas ça qui ramène la communion. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Le problème, ce n'est pas la puissance de Dieu. Il est puissant, le Seigneur. D'ailleurs, il avait fait descendre le feu du ciel. Vous avez vu comment Jézabel s'était convertie? La puissance de Dieu, Dieu va le faire. Vous savez, quand je préparais vendredi cette prédication, j'ai de suite pensé, bien sûr, à des textes dans l'Apocalypse. Pendant la colère de Dieu, est-ce que Dieu va manifester sa puissance? Oui. Regardez comment les gens vont bien réagir. Apocalypse 16, regardez la puissance de Dieu. Alors les gens, bien sûr, sensibles, ils aiment la puissance de Dieu, parce que ça les amène à la communion. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la puissance de Dieu que les gens vont se retrouver en communion. Et c'est ce qu'Élie avait besoin, de retrouver la communion. Apocalypse 16, verset 7. C'est la colère de Dieu qui va venir. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que les prémices. Apocalypse 16, verset 7. J'entendis un autre ange qui dit de l'autel, disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Vous le croyez, ça? Il y a des gens, « Ouais, je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ci. » Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Si Dieu a dit que tous ses jugements étaient justes, ses jugements sont tous justes. Alors regardez, le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Oui, c'est le feu, comme Dieu est capable de le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils se convertirent tous. Non, c'est pas ça que vous avez? Qu'est-ce qu'ils font? Ça fait peur, hein? Ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ce qu'ils auraient dû faire. On peut aller un peu plus loin. Verset 21. Une grosse grêle dont les grelons pesaient 49 kilos et quelques. Vous voyez, ça fait déjà des grosses boules. Hein, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. On pourrait en voir d'autres. Il y en a d'autres qui vont me venir à l'esprit. Bon, en fait, ce n'est pas grave. Mais vous avez vu? Vous avez vu comment ils sont? Ben, au verset 11, la cinquième coupe, quand voyez, les hommes se mordaient la langue de douleur, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur, de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Vous voyez un petit peu? Oui, c'est pas la puissance de Dieu. Vous croyez que ça va mener les gens à se convertir? Nous, on le croit. Ah, Seigneur, si tu manifestais ma puissance dans ma famille, ils se convertiraient. Vous le croyez, ça? Moi, je crois que la puissance de Dieu, je le répète, peut amener les hommes à prendre conscience qu'il existe. Mais ce n'est pas ça qui amène la communion. Ce dont on a besoin, ce n'est pas de manifestation de puissance, quoi qu'il faut prier. Moi, je crois que Dieu, ce matin, peut manifester sa puissance dans un cœur. Mais ce que je sais, c'est que dans cette affaire de la restauration d'Élie, il est écrit au verset 12 qu'après toutes ces affaires, il y a eu un murmure doux et léger. Et qu'en vérité, puisque Élie il est sorti, il s'est enveloppé le visage, il avait besoin de ce murmure doux et léger. Et nous le savons, nous, qui c'est qui est doux et humble? Nous le savons. On a besoin de retrouver la communion avec Dieu. Notre cœur, il n'est pas fait pour des formules. Les gens, mais je le vois, mais c'est malheureux. Les gens, même convertis, « Monsieur Hugo, écrivez-moi une prière. » Moi, je l'ai fait une fois ici. Alors, une femme qui vient me dit, « Monsieur Hugo, je ne sais pas prier. Écrivez-moi une prière. » Alors, elle était toute embarrassée et tout. Alors, je l'écoutais. On les plaît, les gens, vous savez. Des fois, on réagit sentimentalement. Alors, bon, moi, je prends mon crayon et je commence à lui faire une prière. Seigneur Jésus. Et puis au bout d'un moment, je dis non, je ne vous écris pas de prière, c'est ridicule. Tout le monde sait prier. Et même quand on ne peut pas prier parce qu'on est vraiment mal, la Bible dit que l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs. Eh oui, ça ne vous arrive pas des fois de soupirer? Ça ne vous arrive pas? C'est une prière. Parce que ça exprime quelque chose. Même nos larmes. Dieu connaît la voix de nos larmes. Il entend la voix de nos larmes. Donc il faut arrêter. Notre cœur, il n'est pas fait pour des formules. Et les gens, c'est ça la religion. Les gens, ils aiment les formules. On n'est pas fait pour... Notre cœur, il n'est pas fait pour des formules. Notre cœur, il est fait pour la communion avec Dieu. Et si vous ne voulez pas de la communion avec Dieu, ça ne marchera jamais. Notre cœur, il n'est pas fait pour des méthodes. Et dans les églises, mais regardez ce qui se passe. On est en train d'embarquer les gens dans des méthodes. On fait du leadership, et il faut ci, et il faut ça. Il faut se réorganiser pour l'évangélisation, et il faut des moyens, et il faut ci. Mes frères et sœurs, on va vous demander 20 000 euros ou 50 000 euros. On va inviter tel frère, on va faire une mission. Vous savez, il y a un frère ici. Pas de l'église à Toulouse. Écoutez bien, je le lui ai dit, il n'a pas compris. Il y a 7 ou 8 ans de ça, il y a un frère de Toulouse qui a eu l'idée, c'était bien. Il a eu l'idée de donner, je crois il a donné 15 000 euros pour que dans chaque maison de Toulouse et du Grand Toulouse, un évangile soit donné dans toutes les églises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il était venu me voir, il lui manquait, je crois, 10 000 euros, tout comme ça. Vous vous rappelez ? Et il avait dit, voilà, j'ai pas assez d'argent, il y a dans les églises, il nous manque 10 000 euros, je ne sais pas, 8 ou 12, j'en sais rien. Est-ce que Sainte-Anne, vous pourriez nous aider ? Bon, j'en ai parlé au conseil, il m'a dit, bah, de toute façon, on ne peut pas être contre que dans toutes les maisons de Toulouse, il y ait un évangile. Alors donc, on a donné cet argent, on a acheté tous ces évangiles, et dans tous les foyers de Toulouse, ces évangiles ont été distribués. Alors dans certains quartiers, tout a été jeté, brûlé, dans les quartiers où il y a des gens qui sont contre Dieu. Je cite pas les dénominations, mais je vous rendez compte. Et ce frère, il a attrapé une dépression, et il est en hôpital psychiatrique. Je l'avais prévenu, j'ai dit, ne vous attendez pas à voir venir une personne. L'Esprit de Dieu, il agit lorsqu'on obéit. Vous pouvez être lié entièrement. C'est jeudi, à la réunion de formation. Vous vous rappelez, les frères de Samson, ils étaient bien. Ils l'ont lié pour ne pas avoir de problème, avec des cordes toutes neuves. Ils l'ont lié. Écoute, laisse-nous te lier pour avoir la paix. Ah, la paix, ouais, c'est ça, avoir la paix. Bon, enfin. Et ils ont lié Samson avec des cordes toutes neuves. Aux ennemis. C'est chouette, ça. Quand les frères vous livrent au diable, quoi. Mais Samson, il nous est dit que quand il a été rempli du Saint-Esprit, ses cordes se sont détachées comme du lin brûlé. Oui ou non ? Merci, monsieur de Dieu. Ouais. Est-ce que vous croyez que ce qu'on a besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit ? Élie a été rempli du Saint-Esprit. Là, il a passé un moment difficile. Dieu va le restaurer. Mais ce matin, c'est un des ministères. On aime le psaume 23. Combien de gens m'ont dit, oh, monsieur Go, le psaume 23, c'est mon psaume préféré. Mais le psaume 23, c'est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Après, c'est quoi ? Voilà. Mais c'est bien, madame Guillaume. Il restaure mon âme. Mais pour qu'il restaure notre âme, il faut le laisser nous restaurer. Si vous allez au restaurant et que vous ne mangez pas le mets qu'on vous offre et que vous dites, je ne comprends pas, j'étais au restaurant, je n'ai pas été restauré. Mais oui, il faut penser à manger. Mais, ouais, mais ça vous fait rire. Mais combien de chrétiens n'ont pas même 5 minutes à passer devant leur Seigneur? Et si le Seigneur, parce que le Seigneur, s'il y a bien quelqu'un qui a de la pédagogie, c'est le Seigneur. Nous, on en manque, c'est clair. Mais lui, il a de la pédagogie, il sait comment parler à Élie, il sait comment te parler. Mais laisse-le te parler. Et si ce texte vous rappelle pour la 10e fois qu'on n'a pas besoin d'une manifestation de puissance, quoique c'est dans la volonté de Dieu de manifester sa puissance, je peux vous dire quand il a manifesté sa puissance à Horeb, ça n'a pas amené beaucoup de gens à obéir. La preuve, c'est que quelque temps après, il faisait la fête pour se divertir. Par contre, Moïse, lui, tout le rapprochait de Dieu. La puissance comme la douceur du Seigneur. Mes frères et sœurs, ça fait pitié de voir que on a critiqué, parce que c'est ça souvent, les catholiques, ils sont morts, ils prient des idoles, il ne se passe rien dans les églises catholiques. Mais dans ta vie, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu veut te rejoindre et te commencer à te restaurer physiquement ? Mais sérieusement, je le répète, veillez sur votre santé physique. Veillez, je parle, je répète, pas les paresseux, bougez-vous. Mais les gens justement qui sont dans l'activité mondaine, veillez-y, Jésus va revenir. Vous allez rester là, dans les pleurs et les grincements dedans. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, parce que moi, j'ai pas envie que Dieu me dise, mais pourquoi tu ne l'auras pas dit ? Vous croyez que Dieu fera des reproches au pasteur, en ce jour-là ? Vous croyez qu'il y a beaucoup de pasteurs qui s'entendent dire, mais pourquoi tu ne l'auras pas dit ? Que s'ils vivaient dans la mondanité, s'ils aimaient le monde, ils ne m'aimaient pas, celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. Si vous aimez le monde, vous dites, mais j'aime Dieu, monsieur Gros, j'aime. Oui, mais tu aimes le monde plus que Dieu. Et ça te perdra. Ça te perdra. Alors laissez Dieu s'approcher de vous, laissez-le vous restaurer. Il y a du pain, il y a des gâteaux. Alléluia. Vous vous rendez compte, ce soir, vous pouvez prendre. Mais moi je trouve qu'il y a quelques kilos de pain dans la Bible. Du pain en abondance. Et vous n'avez pas envie d'être touché à nouveau, vous n'avez pas envie de pleurer de joie dans la parole de Dieu. Ça fait du bien de pleurer de joie. Ça fait du bien de pleurer, parce que ça fait du bien. Mais de pleurer de joie, ça fait aussi beaucoup de bien. Élie va, il recommence, il comprend, Dieu est en train de lui expliquer, mais Élie, Tu as besoin de mon amour. Tu as besoin de te retrouver dans mes bras. C'est ça dont vous avez besoin, que j'ai besoin. Je veux me retrouver dans tes bras, Seigneur. J'ai besoin de ce murmure, j'ai besoin tout à nouveau de cette douceur. Vous verrez si le Seigneur ne va pas vous redonner du travail. Et Dieu va le restaurer. Enfin, je commence par mes notes. Parce... Bon. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Vous avez vu au verset 15? Regardez si c'est beau. Vous savez, Dieu, il sait ce qu'il a à dire. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va, reprends. Par où? Par le désert. C'est pénible ce désert, mais des fois il faut le traverser. Ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Ne vous tracassez pas. Eh bien, s'il y a encore un peu de désert, c'est pas grave. Jusqu'à Damas, quand tu seras arrivé, regardez le projet de Dieu. Tu oindras Azaël. Il va lui donner des frères. On a besoin de frères et de sœurs. Est-ce que vous le réalisez ça? Quand je vois qu'il y a des chrétiens, ce que je veux dire, c'est peut-être pas intelligent, mais je le dis parce que c'est biblique. Mais c'est mal dit. Quand je vois qu'il y a des chrétiens qui préfèrent la compagnie des pécheurs que des frères. Justement, il y a un verset qui me vient à l'esprit, que la Bible dit que le méchant, celui qui est l'ami du méchant, n'obtient pas la grâce. C'est dans les Proverbes 20, 21, un truc comme ça. Celui qui est l'ami du méchant n'obtient pas la grâce. Et si Dieu me le met à cœur, c'est que certainement quelqu'un avait besoin de l'entendre. Reprends ton chemin, tu oindras, Dieu ne va pas le laisser tout seul. On ne peut pas rester seul, ce n'est pas possible. Dieu vous a donné une église, bénissez Dieu pour l'église. C'est une grâce d'avoir une église, mais je ne sais pas si vous le réalisez. C'est une grâce d'avoir un pasteur, je ne dis pas ça parce que je suis votre pasteur avec les anciens, tout ça. Mais il y a des églises, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'anciens, il n'y a plus de diacones, il n'y a plus personne. Si, le découragement. Et le diable qui fait son œuvre dans le royaume. Tu viendras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Oui, Dieu a tout prévu, mais Dieu a tout préparé. Tu viendras Élisée. Il n'en sait rien, le pauvre, il est en train de labourer. Mais Dieu sait, peut-être que vous ne savez pas ce que Dieu va faire de vous. Tu viendras Élisée, pour prophète à ta place, il a besoin de quelqu'un pour le remplacer, comme un jour ça va arriver pour moi, si Dieu tarde. Il y aura bien quelqu'un pour me remplacer. Est-ce qu'il le faudra? Oui? Oui ou non? Eh bien oui. Vous croyez que Dieu il sait qui aura ma place? Mais ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il a tout préparé. Obéissons-lui. Sortez de la caverne. Investissez-vous. Faites du bien. Mangez des mets succulents et gras. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Mais c'est quand même... Comment il faut le dire? Ah, ma joie, mon homme, ma joie, c'est... L'amour est dans le pré. Moi, je ne manquerai pas plus belle la vie. Ah, ça me fait du bien. Alors, moi, je sais pas, je ne vais jamais regarder. Alors, moi, franchement, vous le savez, mon point de vue, je ne suis pas contre certaines choses. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont saines. Vous êtes d'accord? Oui? Moi, je le pense, franchement. Je pense qu'il y a des choses saines qu'on peut regarder, mais il y a des choses qui sont malsaines. Et si les choses malsaines vous font du bien, moi, je m'inquiète. Je crois que des choses saines peuvent nous réjouir. Je disais l'autre jour que j'ai vu une émission sur Arte, mais j'étais bouleversé. Comment les fleurs perdent les graines. Chaque fleur sur terre, écoutez bien, il fallait y penser, hein, parce que Dieu aurait pu ne pas le faire, ça. Chaque fleur perd ses graines d'une manière différente. Mais c'est quelque chose d'éblouissant. Je peux vous assurer, moi j'en ai pleuré de joie. Mais si vous pouvez retrouver cette émission, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il est tout puissant. Vous entendez? Chaque fleur perd les fleurs, ses graines d'une manière différente. C'est merveilleux. C'est Dieu qui l'a fait. Parce que vous croyez que c'est Dieu qui a créé les fleurs? Bon. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Mais mes frères et sœurs, notre cœur, il est fait pour la communion. Alléluia. C'est pour ça qu'on prend le pain et le vin. Seigneur, je veux être en communion avec toi. Oui, tu m'as dit deux ou trois choses par M. Gauss, c'est mal dit. C'est sûr que moi, je n'ai pas la pédagogie de Jésus, ça, j'en suis conscient. Ça, c'est clair, je le sais. Mais si vous n'acceptez pas une partie de mon message, acceptez sa parole. Et dites, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin. Il va vous parler. Alors là, si vous lui dites un jour, Seigneur, je t'ai demandé de me parler, tu ne m'as pas parlé, je pense que vous allez avoir un problème. Si vous demandez à Dieu de vous parler, il vous parlera. Par sa parole. N'allez pas chercher des faux prophètes qui vont vous en dire, veux-tu un voilà ? Écoutez la voix du bon berger. Je suis doux et humble de cœur. On va fermer les yeux. Et mes frères et sœurs, écoutez-moi. Écoutez bien. Votre cœur, c'est Dieu qui l'a créé dans le sein de votre mère. C'est Dieu qui vous a créé. Et sur son livre sont tous inscrits les jours qui vous sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existait. Il contrôle tout. Tout, absolument tout, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Il est tout puissant. Mais je suis désolé, ce n'est pas de la toute-puissance de Dieu qui vous fera changer. C'est la communion. Et je m'adresse à ceux qui n'ont pas de communion, ou une communion tellement pauvre qu'ils voudraient presque mieux qu'il n'y en ait pas, tellement ça déshonore le Seigneur. Ce que je dis, ce n'est pas intelligent, mais c'est pour vous faire prendre conscience qu'on peut quand même déshonorer Dieu. C'est comme si vous veniez à l'église et qu'au 1er janvier vous repartiez. Vous diriez, non, mais ce gars, il vient pour rien. Mais c'est ça que je voulais dire. Votre cœur, Dieu l'aime. Votre vie, elle est spirituelle. Elle va vivre l'éternité avec ou sans Dieu. Et la barrière, c'est la communion. Seigneur, je veux être en communion. Qui ce matin veut prendre le pain et le vin dans cet état d'esprit ? Seigneur, tu me dis de sortir de ma caverne, eh bien je sors. Et je retrouve le service. Les paresseux, parce qu'il y en a, je le sais. Sinon Dieu ne me demanderait pas d'en parler. Les paresseux, écoutez bien les paresseux, réveillez-vous. Et ne dites pas, mais moi je m'occupe de ma mère. Mais bien sûr, mais si tu n'étais pas chrétien, tu t'occuperais de ta mère aussi. Faites ce que Dieu vous demande. Faites-le. Jésus va bientôt revenir. Et il faut que ce petit peu de pain et ce petit peu de vin qui représente l'œuvre de Jésus au calvaire et le fait que Jésus va bientôt revenir, qu'on en prendra avec lui dans son royaume du vin. Il faut que ce moment de communion soit vraiment un moment de communion. Alors prenez le temps pour distribuer. Des fois on distribue un peu vite. Prenez le temps pour distribuer. Mes frères qui distribuaient, prenez le temps. Mais ce qui est important, c'est les décisions que vous prendrez surtout. Seigneur, moi je veux du gâteau chauffé. Même si vous êtes dans le désert, Dieu peut vous envoyer du gâteau chauffé. Alors levez-vous, mes frères et sœurs, levez-vous avec respect, comme on s'est levé tout à l'heure pour lire le Saint-Livre. Levez-vous. Vous qui êtes baptisés, vous qui êtes en communion avec Dieu, si vous êtes dans le péché, ne vous levez pas. Vraiment dans le péché grossier, si vous n'êtes pas encore baptisé, repentez-vous. Si vous venez là depuis des mois, les enfants, on a 90 qui sont partis au camp. Merci Seigneur pour tous ces jeunes. Mais il y a peut-être des jeunes parmi nous qui ne sont pas encore baptisés, ou des personnes plus âgées. Repentez-vous. Si Dieu vous a mené dans ce lieu, c'est une grâce. Repentez-vous, convertissez-vous, afin que vous soyez sauvés. J'ai fait ma part. Si vous faites la vôtre, Dieu vous restaurera. Notre Père, notre Dieu, ta parole est un bienfait. Tu nous as rappelé ce matin par un don que tout était grâce. Et c'est vrai. C'était une grâce de nous réveiller ce matin. De pouvoir prendre un petit déjeuner. De pouvoir prendre la voiture ou le bus. D'avoir des yeux, des mains. De pouvoir marcher jusqu'à ce lieu. De pouvoir retrouver des frères, des sœurs, ta parole, un pasteur. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Prendre le pain et le vin, quelle grâce éternelle. Seigneur, ce que tu as fait pour Élie, on le sait, tu peux et tu veux le faire pour tous tes enfants qui s'appuieront dans l'angoisse, dans le désert, dans l'épreuve, même dans l'ombre de la mort, qu'importe. nous savons que tous ceux qui s'appuieront sur le bien-aimé, tous, sortiront du désert. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.